BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
Et il est midi une sur BFM Business, l'heure des experts de l'IMO. Mais avant cela, un rappel des principaux titres de l'actualité. Les marchés qui sont dans l'attente de la concrétisation d'un accord de paix au Moyen-Orient. Les principales bourses européennes sont à l'équilibre après l'euphorie d'hier. La détente se poursuit du côté des prix du pétrole avec un baril de Brent désormais sous les $100 sur le marché obligataire. La dette de l'État français à 10 ans se stabilise autour des 3,62% ce midi et le 10 ans allemand sous les 3% sur le front diplomatique. Ces dernières heures, Donald Trump a affirmé que le conflit avec l'Iran serait réglé rapidement. Les autorités iraniennes ont de leur côté confirmé être en train d'étudier une proposition d'accord destinée à mettre officiellement fin à la guerre. Accord qui ne réglerait pas dans l'immédiat la question du programme nucléaire iranien ou celle de la réouverture du détroit d'Ormuz. Côté français, le ministre des Affaires étrangères a déclaré ce matin qu'il était hors de question, je cite, de lever la moindre sanction contre l'Iran tant qu'Ormuz resterait bloqué. Allez, c'est l'heure des experts de l'IMO.
Écoutez BFM Business dans les grandes villes de France. En live ou en podcast sur bfmbusiness.com.
Votre programme avec Bien Ici.
On est bien ici.
Trouvez votre futur logement par vie de quartier et temps de trajet sur bienici.com.
BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
Et les experts de l'IMO, c'est tous les jours à l'heure de votre déjeuner sur BFM Business. Une demi-heure pour parler de notre immobilier, de nos logements. Et aujourd'hui, exceptionnellement, pas de pro de l'IMO en tant que tel, mais des pros de l'IMO en plateau. On va prendre le temps, tout le temps nécessaire pour parler de l'alpha et de l'oméga de ce marché de l'immobilier, le crédit immobilier. On y va tout de suite.
Les experts de l'IMO, le débat.
Je suis hyper bavarde traditionnellement et là, clairement, c'est le sommaire le plus court que j'ai jamais fait, mais parce que j'ai envie qu'on prenne le temps, parce que j'ai trois invités en plateau aujourd'hui. Ludovic Uzieux, cofondateur d'Artemis Courtage. Bonjour Ludovic.
Bonjour Marie.
Julien Langlade, le président de CAFPI. Bonjour Julien.
Bonjour Marie.
Et Thierry Vignal, le fondateur d'Atome. Bonjour Thierry.
Bonjour Marie.
Alors, on va prendre le temps de parler de ce crédit immobilier parce qu'on va pas se cacher derrière notre petit doigt. Il se passe deux, trois petites choses à l'échelle internationale, je le disais en rappel de titre, mais c'est ça qui va aussi driver la politique des banques en matière de crédit immobilier. Ludovic, on va démarrer tout de suite. Je parlais de l'OAT, la dette de l'État français à 10 ans, qui quand même si elle se stabilise autour de 3,6 aujourd'hui, bon, globalement, elle a eu des petits coups de chaud hein, ces dernières semaines. Je crois qu'on est monté à un moment jusqu'à 3,9. Ça a quand même embrayé derrière sur la politique bancaire et on attend la Banque Centrale Européenne en juin, probable hausse des taux. Ça monte, là, dans les banques.
Oui, ça monte un petit peu. C'est sous forme d'ajustement. On a pris entre 0,15 et 0,30% dans la globalité des banques avec lesquelles on travaille depuis deux mois et l'entrée dans le conflit au Moyen-Orient. Vous dire qu'il n'y a pas de tension sur les marchés de taux, ce serait vous mentir.
Ouais.
En réalité, c'est un fait. Ça augmente un petit peu. C'est de l'ordre de l'ajustement. C'est de l'ordre d'une bonne négo. On n'est pas encore sur des augmentations de taux qui...
Ça ressemble pas à la guerre en Ukraine, vous voulez dire, au déclenchement de la guerre en Ukraine pour l'instant?
Non. Non, parce que pour le coup, au bout de deux mois de guerre en Ukraine, on avait un phénomène d'inflation et d'augmentation des taux qui était...
Plus fort, plus rapide.
Ouais, qui était déjà plus appuyé. Et puis en réalité, on voit bien que c'est purement conjoncturel. À chaque fois qu'il y a une annonce de cessez-le-feu ou une reprise du conflit, ça fait effectivement bouger les marchés obligataires et le fameux OAT 10 ans sur lequel les taux de crédit immobilier au particulier sont plus ou moins indexés. Ce qu'il faut rappeler, au-delà de ces soubresauts et de ces ajustements de taux, c'est que toutes les banques, sans exception, sont prêteuses aujourd'hui. On rentre les deux pieds dans le marché de l'immobilier et il est quand même bon de rappeler, à contrario de cette crise il y a deux ans, que toutes les banques sont autour de la table du crédit et prêtes pour tout type de projet, plus majoritairement pour des résidences principales évidemment, mais en tout cas pour tout type de projet, tout type d'emprunteur.
Julien, même constat chez CAFPI, j'ai envie de dire, en gros, oui, ça se tend un peu, mais pas de grosses inquiétudes et non, rien à voir avec la guerre en Ukraine
il y a trois ans. En 2022, donc mars 2022, donc début de la guerre en Ukraine, juillet 22, donc première problématique liée au taux d'usure, donc on est passé de moins de 1% à plus de 4%. comme l'a dit Ludovic, aujourd'hui, on est sur 5, 10 points de base mois par mois.
Ça reste plutôt...
Pour le moment, on est de l'ordre de l'ajustement, tout à fait.
Et les banques, quand vous leur parlez, même chose que ce que disait Ludovic, elles vous disent, oui, bon, on va augmenter un petit peu, mais on continue à être très prêteuses, nos petites lignes de prêts bonifiés, parce que ça, on en a beaucoup parlé ces derniers mois, hein, quand même, hein, parce que au-delà du taux global qu'on va nous proposer, du taux de marché, il y a plein de banques qui nous proposent, pour peu qu'on soit jeune, primo-accédant, qu'on achète un logement neuf, qu'on fasse un grand sourire aux banques. Et, bref, on peut avoir des petites lignes avec des taux bonifiés. Ça, ça existe encore pour l'instant.
Ça existe beaucoup même. Donc, effectivement, derrière un taux nominal sur 25 ans à 3,40 ou 3,45, on peut avoir un certain nombre de prêts bonifiés PTZ, de PTZX, éco-PTZ, qui peuvent vraiment baisser drastiquement le taux moyen du crédit, qui peut tendre même vers 2% sur des biens neufs.
Bon, je vais bien, tout va bien. Thierry, même chose.
Bah, on notera
plutôt de l'optimisme quand même.
Pas du tout.
Non,
Ludovic l'a dit à demi-mot, mais on a un effondrement au sein de la production de crédit des prêts destinés aux investissements locatifs.
Ça fait longtemps, on n'a pas attendu la guerre au Moyen-Orient hein, pour ça.
Bah, ça s'empire à chaque fois. Et non, mais c'est un problème social, en fait. C'est dû au HCSF et à la règle des 35%.
Le Haut Conseil pour la stabilité financière
qui a décidé de mettre une règle à 35% et de ne pas prendre en compte le reste
à
vivre.
Le taux d'endettement.
Exactement.
Non, mais je fais du lexique quand même.
Voilà, donc il y a un taux d'endettement qui est assez strict. On a un député, Lionel Cos, qui a essayé d'introduire une proposition qui a été rejetée finalement pour introduire cette notion de reste à vivre. Bon, le problème de cette règle de 35% qui prétend protéger les ménages, elle protège en fait les banques d'un risque qui se matérialise ailleurs. Parce que tous les gens qui ne peuvent pas acheter à cause de cette règle, ils deviennent locataires par défaut. Et du coup, ça crée du surendettement locatif, ça matérialise ce risque chez les locataires. Et donc, en fait, on transforme un risque de crédit en un risque social. Et le HCSF, qui n'est pas normalement destiné à faire de la politique du logement, de facto, c'est le ministère du logement.
Alors, oui. Alors, du coup, d'ailleurs, Thierry, pour bien faire les... Alors, le HCSF, donc ce Haut Conseil pour la stabilité financière, vous me dites si je me trompe, c'est le régulateur des banques en matière de crédit immobilier. Et il y a plusieurs gens qui décident.
Il y a
la Banque de France, il y a le ministère de l'économie. Enfin, voilà.
Ouais. Il y a un représentant de régulateur des assurances, il y a 2-3 profs à la fac et en école de commerce, mais en gros, il n'y a personne d'élu, donc il n'y a pas de mandat démocratique au sein de ces 8 personnes. Ces 8 personnes qui ne sont pas vraiment du secteur immobilier et qui pourtant décident de facto de la politique immobilière parce que 2/3 des transactions immo en France, c'est financé à crédit. Donc en fait, l'immobilier français est décidé par le HCSF, qui sont des gens issus du secteur bancaire. Bon, ça me dérange un peu, parce que c'est vraiment un détournement d'un outil macro-prudentiel vers un outil de politique du logement. Et le problème, c'est que les règles du HCSF, elles surprotègent les banques qui n'en ont pas besoin, parce que c'est leur métier de pricer du risque et de tarifer ce risque. Et en fait, elles décalent le problème dans les dossiers de surendettement des locataires, où on a 80% des dossiers de surendettement qui concernent les locataires, parce qu'on a refusé, on leur a empêché d'accéder à la résidence principale.
Mais donc, ce que vous dites, Thierry, c'est que le problème aujourd'hui du crédit immobilier, c'est pas les enjeux géopolitiques, c'est le HCSF. Même avis de votre côté? Non, parce que je vous regarde, vous avez les mains dans le cambouis.
Sur le locatif, très factuellement, en 2025, la production de crédit destinée à financer l'immobilier locatif chez Artémis Courtage, c'est moins de 10%. C'est la première fois que ça arrive depuis la création en 2009. On est passé sous 10%, alors qu'avant, c'était concrètement plutôt autour de 18-20%.
Et donc là, très clairement, c'est pas la géopolitique qui justifie la disparition,
non, mais c'est pas que le HCSF, c'est une grosse partie, c'est une grosse barrière à l'entrée du crédit financé de l'immobilier locatif avec cette norme de 35% d'endettement. Mais en réalité, c'est aussi la conséquence de plein de petites graines qui ont été semées ces dernières années, alourdissement de la fiscalité immobilière, les DPE, les lettres FEG, même si tout ça tend à revenir sur des choses.
Une surmédiatisation des cas d'impayés qui reste ultra minoritaire, on le rappelle.
Et en réalité, et comme l'immobilier est un temps long, à plus forte raison l'immobilier locatif, si vous décidez de flécher votre épargne ou votre projet sur d'autres produits à plus long terme, valeur mobilière ou autre, c'est le momentum est passé et vous passez à autre chose et ce cycle il a du mal à redémarrer malgré quelques bonnes volontés. Le HCSF, c'est évidemment, c'est quand même une grosse épine dans le pied parce que je rappelle qu'il faut, y compris avec son crédit d'investissement locatif et ses revenus fonciers pondérés, il faut que la somme de ses crédits, y compris celui de la résidence principale, ne représente pas plus de 35% de ses revenus.
Je rappelle quand même que les banques, elles sont censées avoir le droit de déroger à ces règles dans une partie des cas. Pourquoi elles le font pas,
oui,
pour les investisseurs?
Si, elles le font, mais là, c'est un peu technique, mais donc il y a une poche de flexibilité dans les banques de 20%. Et à l'intérieur de ça, c'est...
Essentiellement pour l'acquisition de sa résidence,
ouais,
principale.
Et en fait, quand on reflèche ce qu'elles ont le droit de faire en flexibilité sur l'investissement locatif, c'est entre 4 et 6% de leur production de crédit. Donc ça représente pas grand chose,
ouais,
en réalité.
Caca, ouais. Même chose du côté de CAFPI, Julien. Enfin, ma question, c'est est-ce que effectivement les problématiques que constate Ludovic chez Artemis avec cette baisse drastique quand même de la part de crédit pour de l'investissement locatif, vous la constatez aussi chez CAFPI, et qui est responsable selon vous?
Alors oui, effectivement, suite à la fin de la loi Pinel, on a vu comme un effondrement effectivement du locatif. On a vu quelques velléités gouvernementales avec le dispositif Jeanbrun, peut-être un dispositif Jeanbrun qui pourrait être élargi au mois de juillet. Donc aujourd'hui, ça reste en redémarrage, mais les constats sont équivalents à ce que peut présenter Olivier. Tout à fait.
Et vous pensez que le Haut Conseil pour la stabilité financière, à l'image de ce que dit Thierry, est globalement responsable aussi de... parce que effectivement on a eu la suppression du Pinel pour l'achat de logements neufs, hein, on rappelle quand même, mais enfin ça ne justifie pas qu'on a arrêté d'investir tout court. En fait, il n'y avait pas que le logement neuf à acheter et à investir.
Non, le HTSF effectivement, alors d'autant plus sur la période 2022-2024 avec la prise en compte uniquement du taux d'endettement à 35% et de pas du reste à vivre, effectivement, avec des taux hauts, était vraiment très, très difficile.
Et puis, il y avait une spécificité, non, je dis peut-être une bêtise, Julien, mais dites-moi, hein, mais il y avait une spécificité pour les investisseurs locatifs dans ce calcul du taux d'endettement. Il y avait eu un truc, voilà, exactement, qui a fait qu'en fait, en changeant la façon dont on voit les choses, alors que les bornes n'ont pas bougé, ben, on dépassait plus souvent.
Ouais, c'est vraiment la double peine, hein. Il y a le 35% et la fin du calcul différentiel.
Exactement. Et donc les 20% aujourd'hui, donc ils ont été difficilement mis en œuvre par les banques, difficiles à piloter. Aujourd'hui, c'est un peu mieux.
Ouais.
Néanmoins, on constate aujourd'hui un blocage qui demeure. Donc le HSF a sa part de responsabilité. Ludovic a évoqué également d'autres éléments.
Ouais, et notamment la fiscalité, c'est clair.
Voilà. Donc on est aujourd'hui et on espère qu'on puisse redémarrer la création de logements neufs et une fluidification du marché locatif grâce à la dette privée.
Bon, il y a quand même un sujet. C'est pas vraiment le HSF, bien que la Banque de France en fasse partie, parce que là, ça va s'adresser à tout le monde. Ce fameux taux d'usure. Parce que vous me dites qu'on n'est pas du tout dans la période de la guerre en Ukraine. N'empêche que, et chez CAFPI, vous avez particulièrement alerté là-dessus, vous n'êtes pas les seuls, mais voilà, cet effet ciseau. Alors, le taux d'usure, taux maximal auquel les banques sont autorisées à prêter, taux tout compris, qui fait référence à la moyenne des taux accordés les 3 mois précédents pour les 3 mois suivants, le tout assorti, je rajoute un tiers, vous avez rien compris, mais en réalité, ça peut bloquer le marché. Messieurs, vous nous expliquez pourquoi ça peut bloquer le marché. Ça l'a bloqué au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine. Est-ce que ça va le bloquer maintenant ?
Rapidement, avant d'expliquer pourquoi c'est sur le retour et pourquoi ça peut éventuellement bloquer le marché, faut quand même rappeler que la création de ce taux d'usure, c'est pour protéger les emprunteurs de prêts usuraires qui seraient distribués par les banques. Donc au départ, c'est effectivement une protection destinée à pas emprunter trop cher. Là, c'est un petit peu dévoyé pour le coup, et on est sur une période où, par exception, c'est quelques dizaines de dossiers sur les milliers de dossiers qu'on traite chaque mois. Donc par exception, on l'avait plus vu. Ça faisait 18 mois ou 24 mois qu'on n'avait plus parlé d'usure parce qu'il y avait plus de dossiers qui tapaient l'usure. Aujourd'hui, on en a quelques-uns. Et pour rentrer pratiquement et concrètement, quels dossiers, quels emprunteurs, c'est des petits montants, des petites durées et des emprunteurs un peu âgés.
Bah oui, parce qu'ils ont un taux d'assurance qui est élevé.
Ils ont un taux d'assurance élevé et les petits montants sur les petites durées, ça offre un poids en pourcentage aux frais fixes que vous avez dans un crédit immobilier. Frais de dossier bancaire, frais de courtage, frais de garantie partie fixe, qui est du coup un peu surélevé quand vous empruntez 100 000 euros par rapport à un crédit de 500 000 euros. Donc aujourd'hui, par voie d'exception, emprunteur âgé, petit prêt, petite durée.
Bon, en gros, les plus modestes, quoi.
Les vieux.
Merci Thierry pour mettre les pieds dans le plat. Mais en gros, on est en train de dire à ceux qui avaient d'ores et déjà des difficultés pour emprunter ou pour qui le crédit n'était peut-être pas le plus facile à obtenir, c'est eux qui payent en premier cette problématique autour du taux d'usure. Donc alors, les personnes âgées, ceux qui ont des problèmes de santé, qui voulaient emprunter peu sur des courtes durées, on n'est quand même pas sur les ménages les plus solides aujourd'hui, quoi.
Oui, alors sur les durées courtes, on peut avoir également des profils
plus jeunes.
Plus jeunes et pas les plus fragiles. Néanmoins, ça les invite à prolonger leur durée de prêt. Donc aujourd'hui, par rapport au taux d'usure, ce qu'on voit, c'est un taux qui est entre 4 et 5,20% en fonction des durées. Donc la difficulté, comme l'a évoqué Ludovic, c'est aujourd'hui, si les barèmes bancaires augmentent plus vite que le taux d'usure qui est bloqué trimestriellement, surtout en fin de trimestre, on peut se retrouver dans des situations de blocage. Aujourd'hui, ce qu'on estime, et effectivement ce qu'on a pu partager par d'autres médias, c'est entre 15 et 20% des dossiers qui pourraient être bloqués au courant du mois de juin. Donc, ce n'est pas des dossiers qu'on mettrait à la poubelle néanmoins, hein, c'est des dossiers qui redeviendraient éligibles au mois de juillet, mais peut-être dans des conditions de taux un petit peu différentes.
Et ça peut pousser Thierry à pousser un nouveau coup de gueule, parce que là, en l'occurrence, alors c'est pas le Haut Conseil pour la stabilité financière, c'est la Banque de France, hein, et qui avait, pendant la guerre en Ukraine, au moment où ça frottait, voilà, mensualisé le calcul du taux. Est-ce que c'est pas, par exemple, ce type de décision qui aussi règle ce marché?
Ouais, alors c'est pas ce qui bloque le plus, hein, le taux d'usure, c'est vrai.
Aujourd'hui, non, mais ça l'a été.
Ouais,
hein.
C'est vrai.
Moi,
je me rappelle.
Il y avait eu quand même carrément des sites dédiés au taux d'usure qui s'étaient créés, quoi.
Enfin, c'était la folie il y a deux ans, mais aujourd'hui, on voit le spectre revenir post-guerre en Iran, parce que l'inflation repart, les attentes sur la BCE repartent à la hausse, donc peut-être que ce sera un sujet pour le troisième trimestre. C'est pas ce qui bloque le plus. Moi, ce qui m'étonne, c'est surtout que les taux continuent à monter plus fortement que chez des pays voisins comme l'Espagne. Je parlais à Geoffroy Reiser, qu'on connaît bien, qui me dit que ses clients empruntent à deux...
Tereta,
ouais. Ses clients empruntent à 2,70, 2,80, alors que nous, on emprunte à 3,40 sur 20 ans.
Pourquoi ?
Bah, parce qu'il y a un système concurrentiel bancaire qui marche mieux en Espagne. Les banques font vraiment concurrence en France. Le HCSF a vachement homogénéisé les conditions d'octroi du crédit en disant aux banques, bon, de toute façon, vous ne prenez plus de profils risqués, vous prenez que les super profils avec des taux d'endettement très bas, des gros CDI. Donc, en fait, il n'y a plus de concurrence sur le risque. Ça s'homogénéise un peu. Moi, je pense que les banques font moins la guerre qu'en Espagne où elles sont hyper agressives et le prêt est un produit d'appel. Et donc, en Espagne, comme il y a un marché concurrentiel qui marche bien, ils sont à 2,80, nous à 3,40. Donc, eux, ils n'ont pas ce problème de taux d'usure, par exemple.
Les deux courtiers qui sont sur ce plateau, à qui on dit qu'il n'y a pas trop de concurrence entre les banques françaises, je suis pas sûr.
Il y a de moins en moins de courtiers, d'ailleurs. Hein. Je crois que les chiffres de Laurias, ça ne fait que baisser. Donc, est-ce que...
Non, la concurrence existe entre les banques françaises. On voit vraiment un écart type important entre les propositions. Donc, après, effectivement, comme l'a évoqué Ludovic à l'introduction, je pense que les taux et les barèmes bancaires aujourd'hui sont indexés sur une anticipation de dette française peut-être un peu différente de celle espagnole, ce qui peut expliquer effectivement un environnement de taux légèrement différent par rapport à l'Espagne. Aujourd'hui, on voit que, et comme l'a dit Ludovic encore une fois en introduction, les banques sont prêteuses dans des conditions qui sont compétitives par rapport aussi à la réalité du marché immobilier, un marché immobilier qui est quand même en rebond depuis 2025. Ouais. Donc, je ne serais pas peut-être aussi
catégorique
ou négatif.
C'est la signature de Thierry. Ludovic, il y a quand même des écarts quand même entre les banques.
Oui, il y a des écarts et on est un des pays européens développés avec le plus d'offres bancaires pour le coup sur le crédit. Accessoirement en Espagne, je suis pas certain que 100% des crédits soient prêtés à taux fixe, ce qui peut aussi expliquer
ça remonte un peu, mais ouais.
Ce qui peut expliquer que sur une période de fixité, il y a un taux d'appel un peu plus bas et que ça augmente après.
Et puis Thierry se garde bien parce qu'on avait eu le sujet à l'antenne d'ailleurs avec le patron de Tereta que vous connaissez bien, qui nous disait que la grosse différence aussi c'était le niveau d'apport personnel réclamé par les banques là-bas, qui est stratosphérique par rapport à ce que nous on demande. Hein.
Oui, peut-être pas stratosphérique. C'est quoi le taux d'apport actuellement chez vous? C'est 10%?
10%, ouais. Les frais.
Ouais, on montait à 30-40% en fonction des villes et des profils.
En tout cas, on a la même BCE et il y a des pays qui sont mieux logés que d'autres sur le taux, donc c'est bizarre. Mais ouais.
Là, il est en train de nous dire d'investir en Espagne, là.
Non, moi je vous dis investir dans des chambres de bonne.
Ah non, alors là, vous n'êtes pas là pour
vous.
Vous ne
pouvez plus acheter votre résidence principale.
Vous ne reviendrez pas en parler. Mais si, on peut. Mais alors justement, on a parlé de ces investisseurs locatifs et je reste persuadée qu'effectivement, il n'y a pas que le HCSF et les conditions bancaires qui les empêchent d'accéder au crédit ou à leurs projets. Mais je pense qu'il y a surtout quelque chose de très psychologique. Qu'en est-il de ceux qui achètent pour habiter, messieurs, entre guillemets? Est-ce que c'est le moment d'acheter? Est-ce que c'est le moment d'aller négocier son prêt? Est-ce qu'il vaut mieux attendre que Donald Trump ou quelqu'un d'autre réussisse à trouver une paix au Moyen-Orient et calme nos inquiétudes sur l'inflation?
Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il est peu probable qu'on ait une baisse des taux dans les mois qui arrivent.
Ouais.
Néanmoins, l'ajustement de 10 ou 20 points de base, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire
sur un
prêt de 200 000 euros sur 25 ans, c'est 10 ou 20 euros par mois en plus de remboursement. C'est pas neutre, mais ça reste absorbable quand même pour la plupart des ménages. Donc aujourd'hui, j'ai coutume de dire que c'est toujours le bon moment d'acheter, dès lors qu'on a trouvé le bien de ses rêves, dès lors qu'on est prêt, soit seul, soit en couple, d'accéder à la propriété. Un prêt, ça se renégocie. Donc dès lors qu'on peut emprunter, bien sûr qu'il faut y aller.
Oui, quitte à renégocier plus tard si les taux baissent.
Oui, il y a plus forte raison quand on envisage d'emprunter pour s'y loger et que c'est sa résidence principale. Enfin, si vous avez fait les trois quarts des recherches, que vous êtes sous offre ou sous promesse de vente, il faut aller au bout. Et puis, si vous êtes sincèrement à 20 euros d'écart par mois sur le crédit que vous envisagiez, ça ne vaut pas de remiser le projet, de le remettre
dans
l'écart.
Parce qu'il y a rarement, parce que c'est ça cette question, vous avez rarement des clients qui sont à 20 euros près, sinon ça ne passerait pas auprès de la banque, quoi.
Non, mais ça peut évidemment. Enfin, je veux dire, c'est aussi une question mathématique. Les 20 euros, les 30 euros sur le crédit, sur les profils les plus fragiles, ça peut faire basculer du mauvais côté des 35%. Mais en réalité, on peut toujours quand même trouver des solutions à cette différence de taux. Aux alentours de 0,20, on trouve toujours des solutions sur des projets qui... Et puis, comme les taux, effectivement, sont plutôt haussiers, bon, est-ce que c'est un bon calcul avec des prix qui globalement stagnent? Est-ce que c'est un bon calcul que d'attendre le trimestre ou l'année prochaine pour remettre son projet immobilier? Je suis pas certain. Si vous avez ça, vous avez trouvé le bon appartement, la belle maison.
Bah alors vous dites quand même, hein, Ludovic, je vous prends au mot, que effectivement si et vous avez dit spécifiquement a fortiori si c'est pour habiter, mais alors du coup je me replace du point de vue de l'investisseur, c'est-à-dire qu'à contrario pour l'investisseur mieux vaut attendre, Thierry.
Bah là, le marché de l'investissement locatif, comme il y a plus de financement de l'investissement locatif, grosso modo, hein, tous les courtiers me disent.
Oui, mais encore une fois, est-ce que c'est lié au crédit ou est-ce que c'est lié au marché? C'est ça le sujet. Mais en gros, si là, moi, j'avais des velléités d'investir, vous me dites non, n'y allez pas.
Alors, il s'avère que comme il y a moins de financement, il y a moins de concurrence à l'achat et du coup les prix baissent. Moi, ce que je vois sur mon marché de l'investissement locatif, ouais. Le marché de l'investissement locatif, c'est grosso modo du studio à Paris. Hein, c'est le produit investisseur, c'est le petit studio, la petite chambre de bonne. Donc voilà, les prix baissent. C'est flagrant. Comme les banques le financent plus, il y a moins de gens à l'achat et donc ça baisse. Donc
comme il y a moins de gens à l'achat.
Oui,
parce que ça dépend de quel côté on se place. Parce que les banques ne le financent pas plus, en fait. J'ai pas le sentiment que. Enfin, vous me dites vraiment, messieurs, les banques financent plus, j'arrive
cas,
chez vous.
C'est passé 18 à 10.
Ouais, c'est ça. C'est pas qu'elles financent plus. Elles font des efforts. Si le dossier est bien monté, le projet préparé, qu'il y a un peu d'épargne résiduelle et que le taux d'endettement n'est pas complètement délirant, elles peuvent y aller. Mais c'est devenu quand même compliqué de faire passer un dossier en investissement locatif sous 35%. C'est quand même très compliqué.
C'est factuel. Hein. C'est-à-dire que vraiment, niveau financement, mes clients galère à se financer sur du locatif.
Donc, quand bien même ils auraient envie de le faire, ils vont pas forcément obtenir.
C'est très dur. Donc, du coup, les budgets font que se réduire. Moi, je vends des chambres de bain à moins de 100 000 euros parce qu'en fait, les gens ne peuvent pas financer plus parce que avec la règle des 35%, etc. Préto me dit la même chose. Ils sont passés sous les 10% de financement de l'investissement locatif, alors qu'avant, ils étaient plutôt entre 15 et 20. C'est pareil chez tout le monde. Et donc, ça crée une fenêtre de tir intéressante sur le marché IMO parce que, comme il n'y a plus personne à l'achat, les prix baissent. Et donc, c'est un peu les soldes sur les studios parisiens, en tout cas, ou équivalent.
Donc, au contraire, vous y voyez une opportunité.
Moi, je vois une belle. Pour ceux qui arrivent malgré tout à se financer, il y a une super fenêtre de tir, parce que le marché, spécifiquement sur les produits d'investisseurs, est en baisse, faute d'investisseurs, faute de financement.
Mais du coup, je rebondis sur le sujet et sur la question que me pose Alban en régie, qui adore me poser des questions pendant l'émission. Il me dit, mais alors, du coup, il faut apporter aussi des solutions. C'est-à-dire que pour peu qu'effectivement, je réussisse à choper la perle qui a vu son prix relativement baisser, là, on entend sur le plateau depuis tout à l'heure que c'est compliqué d'obtenir son crédit. C'est quoi les solutions pour un investisseur pour réussir à séduire le banquier, quoi?
Des choses qui sont un peu contre-intuitives quand on finance un investissement locatif, à savoir d'augmenter un petit peu sa part d'apport, alors qu'en réalité, le crédit est un levier pour faire l'investissement locatif et déduire ses intérêts d'emprunt, des revenus fonciers, etc. Enfin, je reviens pas sur le sujet.
Voilà.
Là, vous en ferez un peu moins et puis vous allez vous départir d'une partie de votre épargne de précaution que t'es pas vraiment destinée à la base à financer de l'immobilier locatif. L'accès au crédit sur le locatif est pas génial. Sur la résidence principale, ça se passe plutôt très bien. Je rajouterais quand même que sur l'investissement locatif, vous regardez votre rendement et quand on reviendra sur des rendements un peu plus sympas, probablement que ça dégrippera aussi un petit peu les il y aura pas d'autocensure sur le sujet et il y aura peut-être plus de dossiers présentés sur du locatif en banque et ces pourcentages augmenteront peut-être un petit peu. Aujourd'hui, quand vous espérez 2,5-3% de rentabilité sur quelque chose où vous allez vous engager sur 20 ans, vous allez avoir potentiellement de la carence locative, de la vacance locative, je parle même pas de squat, etc. Mais c'est quand même des petits rendements sur des investissements longs et il faut, je pense, avant toute chose, pouvoir espérer un rendement un petit peu supérieur.
Un peu meilleur, ouais.
Voilà, pour pouvoir se remettre dans un cycle d'investissement locatif.
Mais pour peu que cette envie soit là, donc je peux essayer d'apporter davantage et donc de réduire mon enveloppe de crédit. Il y a d'autres solutions ou pas, Julien? Est-ce que, par exemple, ça vaut mieux mieux d'acheter dans le neuf avec justement notre nouveau Jeanbrun, on va pas avoir le temps d'en reparler, mais voilà, que dans l'ancien, où il faut mieux que je chope de l'ancien tout pourri avec une note de DPE dégoûtante pour essayer de négocier le prix. Et bah oui, mais si je négocie le prix et que je prévois les travaux.
Le DPEG, c'est très mal financé, ça, c'est l'enfer.
Aujourd'hui, effectivement, le crédit DPE rentre en ligne de compte. Le neuf, comme vous l'avez dit, bénéficie de boosts et de liés au barème bancaire, donc ils vont
y compris pour l'investisseur d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Donc voilà, donc effectivement, tu réduis ta part d'emprunt, donc tu as plus de chances de passer sous les 35%. Tu as un taux d'intérêt qui peut permettre effectivement d'avoir des rendements qui sont un petit peu supérieurs, et donc ils peuvent permettre effectivement de pouvoir donner vie à un projet d'investissement locatif qui doit revenir quand même quelque chose de plus important en France. On a une problématique de logement plus générale. L'ancien redémarre, le neuf demeure à l'arrêt. Encore une fois, les dispositifs Jeanbrun et peut-être Jeanbrun élargi vont plutôt dans le bon sens, mais c'est que le début. On attend autre chose pour aller encore plus loin dans la capacité à loger les Français.
Mais il y a quand même, en tout cas, voilà, quelque chose de dire... parce qu'on a bien compris, là, jusqu'à présent, plutôt discours optimiste de tous les trois, hein, j'ai envie de dire, globalement, sur l'accédant à la propriété pour vivre, pour l'investisseur plus tendu, mais donc avec des petites solutions aussi, choper la bonne décote parce que, précisément, il y a moins de demandes, essayer mobiliser un peu plus d'épargne pour réduire son enveloppe d'emprunt, et puis éventuellement se diriger vers des logements performants. Ce serait ça, le dernier mot ?
Oui.
Parce que vous croyez que ça sera toujours plus rentable d'investir dans des bons DPE. C'est horrible de vous dire ça 50 secondes avant la fin de l'émission. Mais justement, l'assouplissement là qui a été annoncé sur la location des passoires, 5 ans de plus pour les apparts, 3 ans de plus pour les maisons, est-ce que ça pourrait modifier aussi la politique bancaire à l'égard des logements en fonction de leur diagnostic de performance énergétique ?
La modifier, c'est un bien grand mot, mais en réalité, il y a même certaines banques qui refusaient de prendre en considération des revenus fonciers quand vous présentiez une lettre trop dégradée sur le DPE. Ça méritera au moins pour celle-là de pouvoir repondérer des revenus fonciers et abaisser le taux d'endettement. Je ne vois pas d'autre avantage à cette mesurette.
Oui, parce que c'est les DPEG, c'est les meilleures décotes, mais les banques n'en veulent pas. Et le problème, c'est que les produits d'investisseurs, c'est des studios. Les studios, ils sont tous en G et les G ne sont pas financés. Donc en fait, c'est tout ce qui concerne le locatif.
Sauf si vous prévoyez quand même l'enveloppe, hein, on est d'accord.
Non, mais un G, quoi qu'on fasse, il est pas finançable, quoi, grosso modo. Hein,
mais si on a le projet, il est d'accord. Hein, Alban, avec non, moi, il est d'accord, il nous suit tous les jours. Hein,
c'est finançable, il faut, mais c'est un 110 mètres carrés, quoi. Faut être prêt à présenter
Alban est hyper sportif.
Un dossier solide avec effectivement un engagement de faire les travaux, plusieurs devis, etc. etc. Donc c'est parfois un peu contraignant.
Il est sportif, mais il est aussi très tenu par le temps. Il a fait partir le jingle de la fin de l'émission. Vous reviendrez sur ce plateau. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Ludovic Usio, cofondateur d'Artemis Courtage, Julien Langlade, le président de CAFPI, et Thierry Vignal, le patron d'Atome. Merci de nous avoir suivis et à demain pour un nouvel épisode des Experts de l'Immo sur BFM Business.
Les Experts de l'Immo sur BFM Business.